Le monde musulman uni est le plus grand obstacle à l'impérialisme, affirme le président Raisi. En visite au Liban, Amir Abdullahian a rencontré le secrétaire général du Hezbollah libanais et le Hamas a salué le refus de la Libye de normaliser avec Israël. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Lors d'une réunion avec des érudits religieux sunnites, jeudi, le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a déclaré qu'un monde musulman uni serait le plus grand obstacle à l'impérialisme mondial. Raisi a souligné que les puissances impériales ont considéré un monde musulman uni comme le plus grand obstacle à la réalisation de leurs objectifs après la Seconde Guerre mondiale. Il a ajouté que l'arrogance mondiale a créé des obstacles sur le chemin des musulmans qui tentaient de progresser, diffusaient la propagande via leur empire médiatique et formaient des groupes terroristes takfiristes pour provoquer une effusion de sang parmi les musulmans. Le président iranien a attribué à l'arrogance mondiale les profanations aux valeurs sacrées des musulmans, en particulier le prophète, dans le but de s'opposer aux nations musulmanes. Ailleurs dans ses remarques, Raisi a déclaré que des développements régionaux se reproduisaient en faveur du front de résistance, soulignant, dixit, la situation actuelle en Palestine ne peut pas être comparée à celle du passé, fin de citation. Auparavant, selon Raisi, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, prenait des décisions pour les Palestiniens. Mais ce sont actuellement les combattants palestiniens qui, selon lui, prennent l'initiative. Il a déclaré que la résistance était le front victorieux sur le champ de bataille et qu'il n'est plus question de compromis et de capitulation dans la littérature palestinienne. De plus, le président Raisi a déclaré qu'un nouvel ordre mondial serait établi avec l'effondrement des États-Unis et des puissances arrogantes. On vous lisait aussi en titre, en visite officielle au Liban, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, s'est entretenu vendredi avec le secrétaire général du Hezbollah libanais, Syed Hassan Nasrallah. Lors de cette rencontre, qui a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani, les deux parties ont discuté des derniers développements politiques au Liban et dans la région. Par ailleurs, le patron de la diplomatie iranienne a rencontré le président du Parlement libanais, Nabi Berri. Lors de cette entrevue, Amir Abdullahian a déclaré que le choix du président relevait de la compétence de la nation et des responsables politiques libanais, ajoutant, dixit, « Nous sommes convaincus que les dirigeants libanais prendront la meilleure décision au meilleur moment ». Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, tout en transmettant les salutations de Mohammad Barrel Ghalibaf, président du Parlement iranien, à son homologue libanais, a renouvelé son invitation à se rendre à Téhéran. À son arrivée dans la capitale Beyrouth, en provenance de Damas, Amir Abdullahian a appelé les parties régionales et internationales à soutenir le Liban, affirmant que ce sont les dirigeants libanais qui décideront du choix du président de la République. La présidence libanaise s'est retrouvée dans l'impasse à plusieurs reprises et le pays est embourbé dans une crise économique qui survient dans un contexte de sanctions paralysantes imposées par les États-Unis et leurs alliés. Amir Abdullahian est arrivé à Beyrouth au terme de sa visite de 2 jours en Syrie, au cours de laquelle il a rencontré le président syrien Bachar al-Assad et le ministre des Affaires étrangères Faisal Miqdad, et le premier ministre Hussein Arnous. Le chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique de la Palestine Hamas, Ismail Haniyeh, a salué la position populaire et officielle de la Libye qui rejette la normalisation avec Israël et a exprimé l'appréciation du peuple palestinien pour cette décision. Cela fait suite à un appel téléphonique que Haniyeh a passé au chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Menfi, selon un communiqué publié par le Hamas, consulté par l'agence de presse officielle turque Anadolu. Haniyeh a également évoqué au cours de cet entretien téléphonique des évolutions liées à la Palestine et de la position officielle et populaire de la Libye rejetant la normalisation avec Tel Aviv. La semaine dernière, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré à Rome, capitale d'Italie, la chef de la diplomatie libyenne, Najla Al-Mangouche. Cette rencontre a suscité un tollé général en Libye. Des groupes, personnalités et citoyens libyens sont descendus dans la rue pour exprimer une fois de plus leur rejet à toute normalisation avec Israël. Les manifestants libyens ont également incendié le drapeau du régime sioniste. L'actualité est aussi le Niger. Les propositions de courte période de transition suggérées par l'Algérie et le Nigeria restaient vendredi sans réponse des militaires au pouvoir depuis un mois à Niamey qui continuaient leur bras de fer diplomatique avec la France. Si la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reste ferme sur sa position, soit un rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel et la réinstallation du président renversé Mohamed Bazoum, deux voisins du Niger ont ouvert la porte à une éventuelle transition. Le président nigérian, Bola Tinubu, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, a cité en exemple jeudi la transition de 9 mois qui avait eu lieu dans son pays en 1999. Le président ne voit pas de raison que cela ne puisse pas se reproduire au Niger si les autorités militaires sont sincères, prétend la présidence nigériane dans un communiqué. En début de semaine, l'Algérie, autre influent voisin du Niger, avait été plus précise en proposant au régime militaire un plan de transition de 6 mois sous la tutelle d'une autorité civile. Pour l'heure, les généraux au pouvoir à Niamey n'ont pas réagi à ces propositions et leur seule prise de parole sur le sujet remonte au 19 août lorsque le nouvel homme fort du pays, le général Abdourahmane Tiani, avait indiqué vouloir une transition de 3 ans maximum. L'autorité militaire au pouvoir au Niger a ordonné jeudi l'expulsion de l'ambassadeur de France dans une lettre adressée au ministère français des Affaires étrangères. Au Niger, le ministère des Affaires étrangères désigné par les putschistes a affirmé que les services de police sont instruits afin de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France. Plus tôt le 15 août, la junte avait exigé son départ dans un délai de 48 heures. Y réagissant, le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que les putschistes n'avaient pas autorité pour faire cette demande. Dans une note datée du 29 août, le ministère des Affaires étrangères, nommé par le Conseil national pour la sauvegarde de parti, CNSP, au Niger, a rétorqué que la question de l'agrément de l'ambassadeur de France était irrévocable, ajoutant qu'au terme du délai de 48 heures expiré à compter du 28 août 2023, l'intéressé ne jouit pas de privilèges et d'immunité attachée à son statut. Destination France, pour fermer le journal, les Nations Unies critiquent la décision de la France d'interdire le port d'abaya dans les écoles. Lors d'une réunion d'information à Genève, la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Marta Hurtado, a rappelé à la France qui a décidé d'interdire le port de l'abaya dans les écoles qu'en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme, les restrictions à la pratique de la religion ne sont autorisées que dans des circonstances très limitées. En effet, le ministre français de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé dimanche soir au JT de TF1 qu'il avait décidé d'interdire le port d'abaya dans les écoles, notant qu'il discuterait de la mesure avec les responsables des établissements d'enseignement cette semaine. À ce sujet, la responsable onusienne a ajouté que l'ONU n'était pas encore en mesure de commenter en détail cette décision, étant donné que les plans concrets et la manière dont il serait mis en œuvre ne sont pas encore clairs. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. L'hégémonie occidentale est en passe de disparaître, analyse de l'expert nigérian des affaires politiques Haroun El-Binavi. La conférence de Berlin de 1884-1885 fut sans aucun doute l'un des plus grands sommets pervers de l'histoire moderne. Des colonialistes européens, cupides et racistes, se sont réunis dans la ville allemande et ont divisé des Africains comme s'ils partageaient le pain sur la table du petit déjeuner. La conférence a été organisée par Otto von Bismarck, le premier chancelier d'Allemagne, à la demande du roi Léopold II de Belgique, le barbare génocidaire occidental qui a massacré plus de 10 millions d'Africains innocents au Congo. La plupart des Africains ne sont même pas au courant de ce génocide au Congo perpétré par les colonialistes belges, car il ne figure pas dans nos livres d'histoire écrits par les colonialistes blancs. Le colonialisme européen en Afrique a duré plus d'un siècle. Seul l'ancien royaume d'Éthiopie a été épargné parce qu'il a vaincu les colonialistes italiens sur le champ de bataille. La vague d'indépendance en Afrique des années 1950 et 1960 ne représentait pas une véritable indépendance. Ce qui s'est réellement produit, c'est que le colonialisme a été intelligemment remplacé par le néocolonialisme par les barbares impérialistes génocidaires de l'Occident. Le pillage massif des riches ressources en Afrique s'est poursuivi sous la direction fantoche de l'Occident. Les vaillants dirigeants africains qui refusaient de danser au rythme des colonialistes européens ont été éliminés. C'est ce qui est arrivé au héros africain Patrick Lumumba du Congo et Thomas Sankara du Burkina Faso. Le Congo possède toutes les ressources minérales à l'exception du pétrole brut. L'uranium utilisé par le régime américain pour fabriquer les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki a été extrait au Congo. Parmi les colonialistes européens, le colonialisme français a été le plus brutal. La France a causé la mort de plus de 1,5 million de civils rien qu'en Algérie, de dizaines de milliers de personnes dans d'autres pays africains. L'un des modus operandi des colonialistes français consistait à rassembler les érudits musulmans dans une salle et à les exterminer tous. Ils l'ont fait en Algérie, au Tchad, au Mali et au Sénégal. Et l'avidité de leur néocolonialisme est extrême. Même après l'indépendance, la France contrôle toujours les richesses de ses anciennes colonies en Afrique. Le néocolonialisme français en Afrique ne durera cependant pas éternellement. Le récent coup d'État militaire dans l'État ouest africain de la République du Niger n'est pas isolé, mais fait suite à des bouleversements similaires dans des pays voisins du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée ces dernières années. Mercredi, nous nous sommes réveillés avec la nouvelle sur le Gabon, dont le dirigeant a été renversé par l'armée. Ali Bongo a hérité de la présidence gabonaise de son père corrompu, Omar Bongo. Les militaires se sont présentés comme membres du comité de transition et de restauration des institutions. Au nom du peuple gabonais, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime actuel, ont-ils annoncé. La réalité est que la démocratie libérale occidentale a non seulement échoué en Afrique, mais qu'elle a lamentablement échoué. La démocratie en Afrique est devenue un outil permettant aux élites dirigeantes corrompues de voler les richesses de leurs pays respectifs et de les transférer aux institutions financières occidentales alors que les populations restent dans une pauvreté et une faim abjectes. La démocratie n'est qu'un autre système de gouvernement détourné par les barbares hégémoniques occidentaux, les plus grands ennemis de la race humaine. La démocratie est désormais un outil impérialiste de l'hégémonie occidentale en Afrique. C'est un fait amer et indéniable. La tendance la plus visible au Mali, au Burkina, en Guinée et en République du Niger et au Gabon est que les changements de gouvernement bénéficient tous du soutien populaire, car les peuples de ces pays se sont épuisés de l'impérialisme, de l'arrogance et du terrorisme des Occidentaux.